Les Boys de l'immobilier, une présentation d'ImmoStar, leader en immobilier résidentiel, industriel et commercial à Québec. Visitez immostar.ca.
On crée tendance, puis on espère que tout le monde va emboîter le pas.
Puis le rendement, il est correct, mais pour le risque, il est encouru.
Les hausses de loyer l'année prochaine vont être quand même importantes.
Avant, moi, dans ma lecture, c'est qu'on n'avait pas besoin d'être bon pour faire des projets.
Alors bonjour et bienvenue au podcast Les Boys de l'immobilier. Aujourd'hui, on a toute une émission à vous proposer. On va aller parler d'investissement, de bureaux, de télétravail, d'industriel, de retail, de ESG, les sujets de l'heure de l'immobilier qu'on parle dans les médias. Mais avant tout, j'aimerais souhaiter la bienvenue à mon ami et collègue Kevin. Salut Kev!
Salut Frank, ça va?
Ça va très bien. Top shape aujourd'hui pour faire un show de radio.
Effectivement, t'es très en forme. Puis aujourd'hui, on dit souvent que si on veut savoir où qu'on s'en va, ben, faut savoir d'où on vient. Je pense qu'on a vraiment la spécialiste pour nous parler des tendances de marché puis de l'intelligence de marché. Donc, Marie-France, Benoît, bienvenue à l'émission.
Merci, merci les boys.
Marie-France, tu as 30 ans d'expérience dans l'immobilier commercial. Tu as occupé plein de postes importants partout dans la province de Québec. Aujourd'hui, tu es associée directrice intelligence de marché au Canada chez Avison Young. Pourrais-tu commencer par nous expliquer c'est quoi la mission d'Avison Young puis c'est quoi ton rôle, ton travail?
Bien, Avison Young, c'est une agence immobilière et de services conseil en immobilier commercial qui existe depuis plusieurs années. Et ce qui différencie Avison Young d'autres firmes, c'est que c'est une firme privée qui est détenue par les associés. Donc, il y a 750 associés de la boîte et 5000 employés dans le monde. On est en pleine croissance aux États-Unis, puis on est parmi les 5 plus grosses firmes de courtage immobilier au Canada. Mon rôle, c'est vraiment de développer notre contenu, notre thought leadership, comme on dit, pour les différents bureaux au Canada au niveau de l'intelligence de marché, de la recherche, nos plateformes aussi technologiques. Un peu comme je faisais dans mon précédent rôle, mais pour le monde du courtage.
Donc, est-ce qu'on peut dire que tu es une influenceuse de l'immobilier, puis c'est toi qui vas aller décrire les nouvelles tendances, puis expliquer au gouvernement, aux joueurs institutionnels, aux joueurs privés, où l'immobilier s'en va pour les prochaines années?
On n'a pas un rôle de service conseil, mais c'est sûr que oui, nos clients se tournent vers nous pour avoir le pouls du marché, pour voir ce qui s'en vient, pour faire des plans stratégiques. On n'est pas nécessairement au niveau du gouvernement là, comme l'IDU, mais on est membre de l'IDU depuis toujours, probablement. Et puis, donc, c'est d'essayer de voir qu'est-ce qui s'en vient, puis de maintenir les valeurs, puis au centre de l'approche d'Avison Young, il y a l'humain. Donc, on dirait qu'on s'est réveillé aussi là, après la pandémie. L'immobilier, ce n'est pas juste de l'investissement. L'immobilier existe à cause des besoins humains. Donc, le besoin d'avoir un toit sur la tête, le besoin de se divertir, le besoin d'entreposer des biens qui sont produits pour notre consommation et le besoin aussi d'avoir un lieu propice à travailler. Donc, tout ça est axé sur l'humain. Une fois qu'on change notre façon de voir puis qu'on ne regarde pas juste un immeuble, mais on regarde l'utilisation de l'immeuble et comment elle supporte l'activité humaine, ça nous permet de voir où est-ce que le marché s'en va.
Il y a une panoplie de services quand on le regarde sur le site d'Avison Young. Je vous invite à aller visiter pour voir tous les services qui sont offerts. Donc, Marie-France, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler d'investissement. Donc, les tendances d'investissement. C'est quoi qui se passe actuellement là, avec les taux de cap dans le marché?
Bien, en fait, il y a eu beaucoup de volatilité en 2023 avec l'incertitude par rapport au taux directeur. Et puis maintenant que la banque semble avoir stabilisé son taux à 5 et qu'on ne se demande pas est-ce que ça va monter ou rester pareil, mais plutôt ça va descendre, mais on ne sait pas quand, le marché se sent plus confiant à prendre des décisions. Donc, ce qu'on voit depuis le début de 2024, c'est plus d'intérêt, plus de gens prêts à bouger. Puis, les capitaux s'accumulent aussi. Il y a des grands joueurs qui doivent investir et réorganiser leur portefeuille. Donc, on s'attend à plus d'activités pour 2024 parce qu'il y a plus de prévisibilité. Tandis qu'en 2023, il y a eu une période, surtout la deuxième moitié de 2023, où il y avait beaucoup d'incertitudes et ça valait la peine pour plusieurs joueurs d'attendre. Il n'y avait pas d'intérêt à se dépêcher. Des fois, juste attendre, c'est la meilleure stratégie. Mais là, en 2024, le danger, c'est d'attendre encore trop longtemps parce que ça commence à bouger. Là. Donc, il ne faut pas attendre que les taux... Il ne faut pas attendre que les taux commencent à baisser. Il va être trop tard. Les gros joueurs se positionnent maintenant.
Peux-tu justement nous démystifier pour nos auditeurs les motifs, autant du côté vendeur qu'acheteur? T'sais, actuellement, tu nous as parlé de rebalancement de portefeuille. Peux-tu aller un petit peu plus en détail là-dessus?
Admettons, si on regarde pour la diversification de risques ou la spécialisation, dépendamment de la stratégie de chaque investisseur, il y a un portefeuille... en fait, c'est de je peux pas vraiment... Ça dépend du type de d'investisseur. Mais admettons, si on prend un investisseur privé, en ce moment, l'intérêt d'acheter, c'est que il y a eu moins d'activités en 2023. Des joueurs qui habituellement sont là puis qui sont bien capitalisés puis qui peuvent être très agressifs dans leur pricing. S'ils sont pas là, mais ça laisse la place à d'autres joueurs. Donc, on a vu notamment à Québec plutôt d'activité du côté des joueurs privés. Puis pas rien qu'à Québec, au Canada, partout, ceux qui ont été les plus actifs, c'est les investisseurs privés. Parce que les investisseurs institutionnels sont restés un peu sur les lignes de côté, ont attendu. Si tu es un investisseur comme un REIT, ce n'était pas nécessairement le moment d'acheter ou de vendre, dépendamment de la stratégie. Mais pour le privé, ben, ça leur permettait de mettre la main sur des actifs de qualité qui, autrement, se seraient peut-être retrouvés dans le portefeuille d'un investisseur institutionnel. Donc, c'est autant une question de timing.
On a moins senti un peu, justement, de surenchère ou plein de produits disponibles en même temps sur le marché en 2023-2024. J'ai tendance à dire, moi, tu sais, qui est peut-être moins à l'échelle nationale que toi, de ne pas en avoir encore beaucoup disponibles sur le marché.
Non, puis
on voit que les gens recherchent le deal, le fameux deal, mais il n'y a pas vraiment de deal à faire. Tu sais, les actifs ont quand même gardé des prix assez élevés. On voit que l'industriel a changé. Le bureau demeure un produit que les gens semblent s'en éloigner là, quand même. À chaque fois qu'on parle de bureau, c'est non, on ne veut pas toucher à ça. Fait que c'est quoi les produits, Marie-France, qui sont recherchés par... autant joueurs privés que l'institutionnel actuellement dans le marché ou pour les prochains mois en 2024?
Bien, c'est sûr, comme on a parlé là, de les cap rates, s'il y a 16 ou 20 offres pour le même produit, il va avoir une surenchère, donc il va avoir un prix plus agressif. Si on tombe à 4 ou 5 offres, bien là, c'est sûr que ça a un impact sur le prix. C'est comme l'achat, la vente d'une maison aussi, là, quand il y avait beaucoup d'offres puis très peu de produits. C'est sûr que pour l'instant, le bureau, il y a des prêteurs qui ne veulent pas y toucher. Il y a des investisseurs qui ne veulent pas nécessairement du bureau parce que le bureau, sur le marché de bureau, il y a un excès d'offres en ce moment. Puis ça, c'est l'ennemi de l'immobilier. C'est quand il y a trop d'offres, bien, à ce moment-là, les prix baissent. Et les valeurs aussi peuvent baisser. Il y a des produits de bureau qui s'en sortent bien, les immeubles de top qualité qui s'en sortent bien, les taux d'inoccupation baissent dans les grands centres-villes du Canada parce que les locataires sont à la recherche de qualité, ils prennent des espaces plus petits, même si c'est plus cher, mais c'est plus petit, puis ça devient l'image, la culture d'entreprise. Avec le modèle hybride, ils ont besoin de moins d'espace aussi. Mais ce qui est plus inquiétant, c'est les immeubles de catégorie B ou C, plus âgés, pas super bien situés. Qu'est-ce qui va arriver avec ces immeubles-là?
Mais tu le vois-tu, qu'est-ce qui se passe avec ces immeubles-là ailleurs dans le marché? Parce qu'on vit la même crise partout sur la planète. Moi et Kevin, souvent, on regarde des immeubles de catégorie B, catégorie C, puis on essaie de les revirer tout bas, tout côté, dire on fait-tu un résidentiel? On attire-tu un locataire unique? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On est quand même du monde créatif en immobilier, puis on a de la misère à trouver des solutions. Un, ça coûte très cher, il n'y a pas d'incitatif, il manque des stationnements souterrains, il y a plein d'enjeux qu'on peut avoir. Mais toi, dans ton expérience, dans le pays au complet, est-ce qu'il y a des marchés qui commencent déjà à travailler là-dessus puis à avoir des conversions d'immeubles à bureaux dans d'autres usages?
Bien oui, on a vu à Calgary, la ville a mis sur pied un programme où est-ce qu'il y avait une subvention de conversion, puis il y a eu à peu près, je pense, 7 millions de pieds carrés qui ont été convertis. À Calgary, l'inoccupation est à 20% depuis bien avant la pandémie. Là, ça a commencé quand le prix du pétrole a baissé en 2014. Et avec l'aide de la ville, comme ça, la mathématique fonctionne. La ville aussi souhaite avoir des résidents dans le cœur de la ville parce que les gens habitent surtout en banlieue, donc le centre-ville, c'est essentiellement du bureau. Et jusqu'à tout récemment, ce qu'on entendait, c'était que la mathématique pour, par exemple, Montréal ou Québec ne fonctionne pas. Mais là, on a vu un groupe Mac acheter un immeuble à Ottawa pour le convertir. Et de plus en... Et là, j'ai aussi... On a vu à l'Île-des-Sœurs le 16 Place du Commerce qui a été converti en logement. On a entendu le 1245 Sherbrooke à Montréal qui serait, pourrait être converti en logement, 625 René-Lévesque-Ouest. Donc, il arrive un moment où est-ce que, oui, la mathématique peut fonctionner pour certains sites où est-ce que ça prend une superficie de plancher assez petite, sinon ça fait des logements qui manquent de lumière. C'est assez complexe, mais arrive un moment où est-ce que le prix d'acquisition de l'immeuble a descendu à un point où est-ce que c'est comme acheter un terrain un peu. Là. On a vu des conversions, là, par exemple, les conversions d'immeubles industriels il y a 20 ans. En 95, ça avait commencé des immeubles industriels qui étaient au cœur de la ville de Montréal qui ont été convertis en bureaux de type loft. Il y a eu aussi dans Saint-Roch des immeubles comme ça. En ce moment, c'est le contraire. Là. Les loyers pour les immeubles industriels sont plus élevés que les loyers pour des édifices de bureaux de catégorie C. Les valeurs des immeubles industriels sont plus élevées que les valeurs pour des immeubles de bureaux de catégorie C. On n'aurait pas pensé ça il y a 20 ans. Mais en fait, un immeuble, c'est un immeuble, puis une fois qu'il peut être converti pour l'usage que l'humain a besoin d'en faire et que le prix d'acquisition est suffisamment bas pour que la mathématique fonctionne, il y a des immeubles qui peuvent être convertis, mais pas tous les immeubles. Comme tu as dit, François, là, vous êtes très créatif, vous en avez redéveloppé des projets, mais l'emplacement, l'emplacement est important, l'accès. Si tu n'as pas de stationnement, mais tu n'as pas de transport en commun, ça va être difficile.
Mais on sait quand même pertinemment qu'un jour ou l'autre, les immeubles à bureaux à redévelopper sont quand même tous bien localisés, puis ça va se passer. C'est comme dans l'industriel, tu as dit, les immeubles sont restés vacants pendant des années. Puis à un moment donné, tel quartier est redevenu trendy, avec les immeubles ont commencé à se vendre, à se redévelopper, puis c'est une question de temps avant que ça arrive dans les immeubles à bureaux, parce qu'il y a encore des terrains disponibles, il y a encore des emplacements disponibles à moindre coût pour faire des projets résidentiels. Puis, tu sais, les gens, la perception que moi, je pense, c'est... Quand tu vas vivre dans un projet neuf qui est construit versus une conversion de bureau, bien peut-être que tu t'attends à vivre dans un projet de meilleure qualité, meilleure insonorisation, meilleure enveloppe de bâtiment, meilleur tout. Donc, quand tu as un 2500, 3000 $ à investir dans un ou l'autre, bien peut-être que tu vas prendre le choix d'aller l'investir pour vivre dans un vrai projet multirésidentiel qu'un tour à condo, à moins que tu n'aies plus le choix. Je pense que c'est ça qui va arriver bientôt.
Oui, l'offre est insuffisante dans le multirésidentiel, on le sait. On en entend parler à tous les jours dans les journaux. L'offre en logement abordable, il y a une crise, une pénurie. Pour ce qui est des logements plus luxueux, on n'est pas à 1,9 % d'inoccupation, là, comme la moyenne de la SCHL.
On frôle le quoi, mais... ma France?
Pour le plus luxueux, c'est des immeubles qui prenaient peut-être 9 mois à être stabilisés et complètement loués, peuvent prendre jusqu'à 18 mois. Quand c'est rendu que le loyer dépasse 2 500, 3 000 $ par mois, bien, le locataire se dit « Est-ce que je m'en vais dans un secteur moins cher ou j'achète? » Mais bon, c'est pas toujours le bon moment dans la vie de quelqu'un d'acheter, mais il peut se dire ben, « Finalement, je vais me relocaliser dans un endroit parce que je vais avoir la même qualité. » Mais donc, on a vu beaucoup d'étalements urbains, là, justement, à cause de l'inabordabilité. Il y a aussi des... C'est des sites, hein, c'est pas toujours des immeubles qui sont convertis, c'est des sites qui sont redéveloppés. Vous avez redéveloppé un centre commercial vieillissant à Cap-Rouge, super bien situé. Les immeubles de loft dont je parlais, l'exemple, il y en a un qui avait été acquis au coût de 35 $ le pied carré. Mm-hmm. C'est sûr que c'est comme acheter un terrain là, qui était dans un secteur central. Donc... l'emplacement d'un immeuble qui a été construit il y a 30 ans n'est peut-être plus le bon emplacement pour ce type d'immeuble-là, parce que l'environnement a changé. Donc, il y a plusieurs facteurs, mais au bout du compte, il faut que la mathématique fonctionne, ce qui est un peu aberrant dans le discours sur la... En tout cas, personnellement, c'est mon opinion personnelle, ce qui est un peu aberrant dans le discours sur la pénurie de logements, c'est qu'on s'attendrait à ce que les promoteurs règlent tout ce problème-là, fassent des projets qui soient pas rentables.
Mais c'est comme toute la pression est sur les promoteurs.
Oui.
Puis à chaque jour, à chaque semaine, il y a un nouvel élément qui se rajoute.
Oui, et les délais sont très longs. Il y a une présentation de Desjardins dernièrement, vous l'avez vu, vous étiez là, qui montrait qu'au Canada, on était le deuxième pays au monde, après la Slovénie, en termes de longueur d'approbation des permis, de délais, au niveau des délais d'approbation des permis de construction. Ça coûte cher d'attendre son permis. Des fois, les règles du jeu changent même après l'obtention du permis. C'est difficile, il n'y a pas de prévisibilité. Donc, ça veut dire plus de risques. Donc, il faut... ça n'encourage pas le développement.
Ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas dans un contexte de conditions gagnantes. T'sais, on parle souvent du financier, mais tu l'as bien soulevé. T'sais, même si on parle de conversion de projet de bureau, il y a des défis techniques, puis il y a une expertise qui est nécessaire qui va faire en sorte que ce projet-là va peut-être se travailler pendant 3 ans. Puis pendant ce même 3 ans-là, peut-être que j'aurais pu en faire 2 projets à partir d'un terrain vierge. Donc, je pense que pour le bureau, la conversion, c'est quelque chose qu'on va voir, mais est-ce que c'est une tendance qui va se répandre? Je pense que ça va plutôt être des cas d'espèce sur les meilleurs sites, sur les bâtiments, comme tu l'as dit, qui ont la meilleure superficie pour le faire, mais je ne vois pas un 50% du marché
de matériel transformé. Ça va prendre des incitatifs, puis le gouvernement voit déjà qu'il y a de la difficulté avec la dette, là, fait que je ne sais pas comment il faut être en mesure de rajouter des incitatifs pour nous encourager à changer les tours à bureau.
Mais on oublie des fois que le Dominion, c'est un ancien immeuble de bureau. Le Germain, hein, qui s'appelait oui. Le Dominion. C'est un ancien immeuble de bureau. L'Hôtel Renaissance au centre-ville de Montréal. Le Germain à Montréal, c'est des anciens immeubles de bureau qui ont été convertis en hôtel. Donc, quand le site s'y prête, quand l'immeuble s'y prête, faut voir le site d'abord.
Là. On va s'y attarder, puis c'est notre travail. Moi, je pense qu'on va y arriver avec le temps. Mais j'aimerais ça qu'on reste un peu dans le bureau. Oui. Marie-France, on se connaît, ça fait longtemps. Là, tu me parles. On a beaucoup parlé ensemble là, de télétravail, de présence au bureau. Je sais que vous avez plein d'outils pour analyser là, le retour au bureau d'un grand marché, Montréal, Toronto, Vancouver. Peux-tu nous parler de ça? Là? Qu'est-ce qui se passe actuellement dans le télétravail, les bureaux, les grands centres urbains? Est-ce qu'on est dans la bonne direction ou ça stagne?
Bien, il y a une nouvelle normalité qui s'est installée, c'est le travail hybride, mais c'est pas comme s'il n'existait pas avant la pandémie. Tout le monde était plus ou moins équipé pour être capable de travailler de la maison au besoin. Mais là, ce qui est intéressant dans les mentalités, c'est qu'on dirait que le vendredi, c'est devenu un acquis, que le vendredi, on peut travailler de la maison.
Un congé ou un télétravail?
Bien, les gens peuvent... Il y a des gens qui... Si on fait un travail qui demande de la concentration, un travail d'analyse, de rédaction, tout ça, on peut faire beaucoup de choses de la maison. Ça sauve... C'est le temps de transport. Là, on voit où est-ce que dans les villes canadiennes où le retour au bureau s'est fait le plus rapidement, c'était Calgary et Edmonton. Calgary et Edmonton n'ont pas le problème de trafic que Toronto ou Montréal ont. À Québec aussi, les gens sont retournés au travail assez rapidement parce qu'il n'y a pas... tu ne perds pas 2 ou 3 heures de ta journée dans le trafic. Donc, c'est sûr que pour quelqu'un qui travaille au centre-ville de Toronto puis qui va passer 1h15 le matin, 1h15 le soir pour se rendre au bureau, les 2 jours qu'il peut travailler de la maison, bien, c'est matériel là, en termes de... C'est du temps qu'on peut passer chez nous, arriver plus tôt pour souper en famille, etc. Donc, par contre, là, ce que je trouve intéressant, c'est que des employeurs passent de tu dois être minimum 3 jours au bureau à tu peux travailler de la maison maximum 2 jours semaine. Donc, moi, c'est ce que je dis. Tu peux travailler de la maison, mon équipe, vous pouvez travailler de la maison maximum 2 jours semaine. Donc, le choix leur revient parce que en moins de 3 jours au bureau, tu perds de la synergie.
Ouais.
Mais en fait, quand j'étais une des premières à revenir au bureau, là, quand on a eu le droit, rentrer dans un bureau où il n'y a personne, c'est déprimant. Mm-hmm. C'est vraiment un feeling de fin du monde. Mais quand on revient au bureau et il y a des gens, bon, déjà là, c'est mieux. Mais plus les gens reviennent, plus ceux qui sont à la maison se sentent un petit peu... Quand tu es le seul à être sur Teams et que tout le monde est autour de la table...
Une pression sociale. Là.
Oui, le fear of missing out, mm-hmm. Des conversations que tu as manquées. Je trouve que là, même je le vois parce que quand j'ai commencé, j'étais 100% virtuelle. Chez Wesson Young, c'était en janvier 2022. On était encore obligés de travailler de la maison. Donc, tout le monde était en virtuel. Et là, je vois qu'il faut que je recommence à me déplacer à des rencontres en personne qui sont incontournables. Mais c'est bien de ne pas avoir à se déplacer à Toronto pour une rencontre d'une heure.
Non, c'est sûr.
Vous savez, là.
Non, ça nous amène un peu sur le taux de disponibilité. On voit là, que la vacance, elle augmente de manière importante. est-ce qu'elle va continuer encore à augmenter avec les grands employeurs comme le gouvernement du Québec, le gouvernement fédéral, les grandes compagnies d'assurance, les grandes institutions vont, les baux vont arriver à échéance au cours des prochaines années? Est-ce que tu t'attends à ce que le marché diminue encore de manière importante?
En fait, ce qu'on remarque, c'est pour ce qui est des PME, des plus petites entreprises, les décisions ont été prises. La politique de retour au travail n'est peut-être pas 100 % claire. Mais si tu occupes 5 000 pieds carrés de downsizing de 20 % la mathématique ne fonctionne pas. Ça, c'est aussi bien de juste garder ton bail tel quel.
Ça coûte cher à construire.
Oui, parce que les coûts de construction, parce qu'on a une équipe de gestion de projet qui fait la gestion de projet pour des locataires qui sont clients chez nous, ça a augmenté beaucoup. Là. C'est plus juste 80-100 $ les enveloppes d'amélioration locative. Mm-hmm. Je pense Google, c'était au-dessus de 400 $ qu'ils ont investi dans leurs nouveaux locaux. Mais pour les grandes entreprises, celles qui ont 3-4 étages dans un même immeuble, bien, ils peuvent planifier pour redonner un étage au complet, puis réorganiser, puis rationaliser ou densifier les trois étages restants. Là, l'économie vaut la peine. C'est ça qui, peut-être, est un peu à surveiller sur le marché de bureaux de Québec. C'est qu'il y a eu des renouvellements là, depuis mars 2020. Il y a eu des vagues de renouvellement, peut-être des renouvellements d'un an, deux ans, en attendant de voir qu'est-ce qui va arriver. Mais au fur et à mesure là, que les compagnies prennent des décisions, il pourrait y avoir encore d'autres rétrocessions d'espace de la part des grands locataires. Mais les compagnies d'assurance, à Québec, c'est un locataire important. Mm-hmm. La SQI aussi. Et je ne sais pas, ça fait longtemps que je n'ai pas été dans un bureau de la SQI, mais dernièrement, j'ai visité des gens dans un immeuble, en fait, un locataire société d'État que je ne nommerai pas. Et les bureaux étaient tellement désuets.
Il manque d'amour.
Que je comprends pourquoi ils sont là juste une journée semaine, parce que c'était des bureaux des années 80. Donc, puis là, bon, c'est le gouvernement, donc ils ne veulent pas trop investir nécessairement dans les aménagements, mais ils vont devoir le faire. Bref, il faut... Aujourd'hui, le bureau compétitionne avec le confort de la maison. Moi, ce qui m'encourage avec le bureau, c'est que la qualité des locaux de bureau aujourd'hui est meilleure qu'elle n'a jamais été. Là, les nouveaux projets, là, les derniers aménagements qui sont faits, là, c'est une nouvelle génération de bureaux avec de la lumière, des divans, des écrans partout, de la mobilité, des espaces de collaboration. Il y a vraiment un souci de que ce soit un facteur de productivité.
Ça augmente juste... la productivité? Est-ce que vous êtes capable de calculer, vous, chez Avison Young?
Non. Moi, chez Avison Young, on ne calcule pas la productivité, mais les études montrent qu'à force d'être en télétravail de façon prolongée, il y a une perte de sentiment d'appartenance, il y a un sentiment d'isolement, et puis il peut y avoir une perte de productivité. Moi, j'ai travaillé de la maison longtemps, là, quand les enfants étaient jeunes, tout ça, puis les gens qui travaillaient de la maison, c'était des pigistes. C'était des gens qui travaillaient seuls, des traducteurs, des graphistes, tout ça. Ils avaient leur petite entreprise, ils travaillaient de la maison. Mais des gens qui travaillent pour une grosse entreprise puis qui sont en télétravail à 100 %, ça, c'est quand même un phénomène plus répandu qu'avant. Par contre, le pourcentage des offres d'emploi 100 % télétravail a baissé depuis la pandémie. Il a atteint, je pense, à 14 % en 2022, puis depuis ce temps-là, il est en baisse. Donc, il y a plein d'entreprises qui ont changé de cap que Google, mais Meta et tout ça, qui disaient vous pouvez travailler à la maison jusqu'à la fin de votre carrière. Maintenant, c'est comme revenez au bureau, sinon vous perdez votre emploi. Mm-hmm. Ça change vite. Hein? Une fois que la roue est enclenchée, que les gens recommencent à aller au bureau, puis ça redevient notre habitude, le naturel revient un peu. Puis, mais le vendredi...
C'est comme aller au gym. Ouais. Si tu n'y vas pas, tu n'as pas le goût d'y aller. Plus que tu commences à y aller, plus que tu as le goût d'y retourner. Et puis de devenir plus en forme.
Le lundi puis le vendredi, il y a moins de monde. Ça, les statistiques le démontrent. Mais le mardi, mercredi, jeudi, tu as besoin de 100 % de ton espace. Donc, ça change. Mais moi, c'est la première fois que je suis un peu optimiste pour le marché de bureau depuis mars 2020.
Mais tu nous as partagé des études, Marie-France, puis un point qui a retenu mon attention... c'est que le taux de disponibilité dans les immeubles de prestige, puis tu en as parlé un petit peu tantôt, des environnements attrayants et autres, lui, ce secteur ou ce sous-segment de marché-là performe bien.
Oui, performe bien à Vancouver, à Toronto, à Montréal, puis à Calgary, parce qu'il y a une course vers, on appelle ça là, la, la, la recherche de la quête vers la qualité. On parle maintenant d'espaces non différenciés, des espaces standards, ordinaires, où est-ce que le seul but, c'était d'avoir un bureau pour une chaise et un ordinateur pour que la personne puisse travailler. Ce qui est recherché. Là, ce qui est recherché, c'est des aménagements qui reflètent la culture d'entreprise, qui favorisent la fidélisation, la rétention des employés. Parce que, en fait, ça fait 30 ans chez l'immobilier, il y a beaucoup d'études qu'on fait, c'est sur des décisions immobilières et l'impact des décisions immobilières sur la rétention des employés. Parce que là, on a un problème de pénurie de main-d'œuvre, de professionnels qualifiés. Que ce soit dans l'industriel ou dans le bureau, on fait des analyses de mobilité pour voir si vous déménagez là, ça rajoute du trafic, ça rajoute du temps de déplacement pour vos employés. Votre bassin d'ingénieurs, il est ici. Quelqu'un m'a dit aussi, ça, je trouvais ça intéressant, que des gros employeurs dans des parcs industriels, par exemple en Estrie, louent des bureaux en Montérégie, admettons 10-30, pour leur staff de bureau, pour leur offrir un office lifestyle. Parce que pour garder ton comptable ou tes comptables ou tes gens d'administration dans ta compagnie industrielle, est-ce qu'ils vont vouloir aller travailler dans un parc industriel, dans un petit bureau dans le coin d'un entrepôt, où ils préfèrent être dans un immeuble de bureau? Puis au coût maintenant, le coût de l'industriel est tellement élevé qu'il était aussi bien d'aller louer des beaux bureaux pour garder ton personnel.
Mais c'est quoi un immeuble de prestige? On parle beaucoup des aménagements, mais c'est quoi les qualités d'un immeuble de prestige pour que ces locataires-là choisissent d'aller dans les immeubles?
Bien, chez nous, dans nos études, c'est le top 10 % là, en termes de qualité, de récent ou complètement réaménagé, puis c'est les loyers. Là, ceux qui sont capables d'aller chercher les loyers les plus élevés sont considérés comme les immeubles de prestige parce que le loyer, ça témoigne de l'intérêt d'un locataire pour ce site-là. Par exemple, ce serait le 1250 René Lévesque. C'est un immeuble de prestige. Dans notre étude, les immeubles de prestige, il n'y en a pas beaucoup, il y en a juste 8. C'est 8 immeubles qui sont au cœur du centre-ville.
Tu parles de Québec ou Montréal?
Là, je parle de Montréal. À Québec, Edmonton, et Ottawa, il n'y a pas d'immeuble triple A, comme de dire le prestige. Parce qu'il n'y a pas une assez grande concentration pour suivre ce marché-là. Mais il faut regarder le A supérieur. Maintenant, on tranche un peu, on segmente le marché. A moins, A plus. Mais en fait, on peut aussi avoir des espaces triple A dans un immeuble A ordinaire si le locataire investit pour faire des bureaux. Mais dans les grandes villes, la densité permet aussi d'aller chercher des services. Donc, ça prend des services autour, puis du transport en commun. Parce que le trafic étant ce qu'il est dans le centre-ville de Toronto, par exemple.
Mais c'est inquiétant pour les immeubles, les plus vieux immeubles, les remettre à niveau pour être en mesure d'attirer des locataires. Et c'est des investissements qui sont importants, mais on le voit que les loyers augmentent pas. Les taxes augmentent, le loyer additionnel augmente, mais tu as des investissements de plusieurs millions pour les systèmes mécaniques, couper les gaz, les rendre libres, d'améliorer tes aires communes, ton lobby, tes ascenseurs. Mais les loyers augmentent pas. Fait que je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va faire. Mais encore une fois, c'est un enjeu pour les grands, grands, grands propriétaires de bureaux. Ils doivent se creuser les méninges.
Oui, absolument. Le défi est là parce qu'avant que l'absorption ou que la demande prenne de l'expansion assez pour que la rareté dans les immeubles de top qualité se répercute, profite aux immeubles de la catégorie en dessous, puis que finalement, ça l'effet ricochet jusqu'au B+, là, par exemple. Ça va prendre du temps. Puis il y a des immeubles qui vont devoir trouver une nouvelle vocation, clinique médicale ou laboratoire, ou être complètement refait. Mais encore une fois, il y a un problème d'obsolescence. Il y a comme un segment ou certains immeubles qui vont rester vacants encore.
Bien, surtout qu'ils ne s'en construisent pas. Ils ne se construisent rien actuellement dans le marché. Fait que le stock va encore vieillir. C'est une bonne nouvelle parce que les gens n'auront pas le choix à mener de retourner dans ces immeubles-là puis il va réavoir des investissements qui vont être faits.
Bien, en fait, je te disais tantôt que j'ai pas été aussi optimiste pour le marché de bureaux depuis mars 2020. C'est que à Montréal, puis on a commencé à voir le taux d'inoccupation baisser. Okay. Est-ce que c'est une tendance lourde? Est-ce que ça va continuer? Mais c'est la première fois depuis, depuis le premier trimestre 2020 qu'on voit une baisse de quand même 1%. Et pas de nouvelle construction. À Québec, pas de nouvelle construction. Donc ça, c'est aussi un bon indicateur.
Tu parlais de bonnes nouvelles pour le bureau, mais en prenant connaissance là, des études et des rapports de marché que tu nous as donnés, moi, je trouve que ce qui en ressort, le vrai soleil, là, je le voyais sur tout ce qui est les immeubles commerciaux, le retail. Oui. Fait que peux-tu nous en parler un petit peu?
Oui, bien, le retail, c'est intéressant parce qu'en mars 2020, il y a beaucoup de monde qui prédisait la fin du retail. On allait magasiner en pantoufles en ligne pour jusqu'à la fin de nos jours. Et dès que les mesures sanitaires se sont relâchées un tout petit peu, on voyait dans les centres d'achat, je me rappelle, aller aux galeries de la capitale dans le temps des fêtes, tout le monde avec son masque en train d'attendre en ligne à la queue leu-leu pour rentrer dans un magasin. Et je me dis, on aime ça magasiner. On s'est rendu compte que ça fait partie de notre mode de vie. Et le retail se porte bien au niveau, même en 2023, l'intérêt des investisseurs pour le retail est resté. On a été trop rapide à penser que le retail, Québec et les centres commerciaux allaient mourir. C'est sûr qu'il y a des centres commerciaux vieillissants, mais ça, c'est pas à cause nécessairement de la COVID. C'était avant les mailles plus vieux qui sont bien situés, comme le mail à Cap-Rouge, qui se prête à un redéveloppement avec une mixité d'usage. Ça, c'est une question de site. Mais le retail, il y a deux catégories maintenant qui fonctionnent bien. Il y a le retail expérientiel, là, où est-ce que c'est pour le consommateur, il veut être séduit, il veut de l'expérience, du divertissement. On voit dans les centres commerciaux moins de magasins de mode, mais plus de restaurants par rapport au mix. Donc, le côté le fun, puis le côté essentiel. Donc, épicerie, pharmacie, les strip malls qui se sont construits dans les banlieues où les gens ont déménagé, qui ont besoin de plus de pharmacies, de plus de commerce essentiel, qui, eux, ne sont pas trop touchés par le commerce électronique. D'ailleurs, les ventes de commerce en ligne ont plafonné là, depuis, ça fait un an qu'ils sont pas mal stables, qu'ils ont arrêté de croître de façon importante. Donc, le retail, si c'est un centre commercial ou un commerce de détail, si c'est fun ou si c'est essentiel, ça va aller bien. Entre les deux, pas tant.
Mais est-ce que tu vois les augmentations des loyers dans le commerce de détail? On a vu les ventes augmenter en 2023. 2024, début, commence peut-être moyen. On n'est pas sur la même flambée qu'on était en 2023. Mais j'ai l'impression que les loyers restent encore assez neutres.
Ça dépend de la rareté aussi. Il y a des centres pour lesquels s'il y a des listes d'attente et puis que les locataires veulent aller là puis qu'il n'y a pas beaucoup d'espace, bien, ils vont avoir plus d'opportunités d'augmenter le loyer. Mais il y a la capacité de payer du locataire aussi. Les détaillants font face à plusieurs coûts qui sont autres que le loyer. Le coût de la main-d'œuvre augmente parce qu'il y a une pénurie. On est rendu que des commerces de détail qui doivent offrir au-delà du salaire minimum à leurs employés. Les tarifs, les coûts de... Il y a eu un moment où est-ce que les coûts des containers avaient triplé. Donc, il y a tout ça qui fait en sorte que... La capacité de payer, c'est un peu comme l'industriel aussi. On ne montera pas à 25 $ de loyer industriel. On a vraiment atteint pas mal la capacité de payer des locataires industriels. Si on augmente davantage, là, la mathématique fonctionne pas. D'ailleurs, une petite correction, là, on a vu une légère baisse depuis un an. Parce que la capacité de payer des locataires n'est pas infinie. Donc, pour le commerce de détail, bien, ça dépend du commerçant, mais... Je suis sûr que toi, tu le vois dans tes centres, là, que c'est assez stable.
Je le vois, tu sais, Frank, tu chapeaux toute l'équipe de location, puis on dirait que depuis 6 mois, puis tu peux nous en parler, il y a comme une effervescence, une demande qui est là de plus en plus.
Ah oui, une demande qui est là, on la sent vraiment, surtout dans les immeubles qui sont déjà construits. Le coût de construction est devenu tellement cher qu'aujourd'hui, je ne peux pas dire on reconstruit un centre d'achat ou un strip commercial avec des loyers comme qu'on avait il y a 5 ans. Il y en a qui vont le faire, puis peut-être qu'on pourrait en parler de Royal Mount tantôt un peu, le projet qui se passe à Montréal. Mais oui, je sens qu'il y a une effervescence. Les locaux qu'on a eu plus de difficultés à louer depuis les 4 dernières années, on a de la demande dessus, on a des joueurs qui viennent. Mais je dirais que on va y aller plus avec des loyers qui sont hybrides. Quand je parle de nos centres, avec des centres qui sont plus en région. Donc, un loyer minimum accompagné d'un pourcentage des ventes. et qui veulent qu'on gamble avec les locataires pour dire « OK, parfait, François, tu me dis que tu as une bonne propriété, je suis prêt à l'essayer, mais assure-toi d'attirer de l'achalandage dans le centre d'achat. Fait que comme ça, je vais te donner un pourcentage des ventes. » Fait que si on réussit, tout le monde y gagne, puis si on y perd, bien, on perd ensemble. Fait que je pense que c'est un modèle qui est intéressant pour les types de propriétés qu'on a. Dans d'autres propriétés ailleurs, c'est des modèles qui fonctionnent différemment. Mais oui, je sens qu'il y a une effervescence. Puis c'est un bon signal qu'on envoie là, dans le commerce du détail. Ça fait du bien de voir ça après toutes ces années qui ont été un petit peu plus difficiles.
Tu vois-tu un peu même l'écho, Marie-France, du côté, tu as la chance toi, d'être en contact constamment avec des acheteurs, des joueurs institutionnels. Est-ce qu'ils regardent plus le retail qu'ils le regardaient il y a 2 ou 3 ans?
Oui, il y a de l'intérêt pour le retail. Justement, pour ce que vous venez de dire, c'est que comme il n'y a pas de nouvelle construction, puis que la demande n'est pas fulgurante, mais est positive, bien, le nombre d'options est de plus en plus rare. Le nombre de locataires qui sont sur des loyers à pourcentage, il y en a eu beaucoup pendant la pandémie, est en diminution. Mes questions pour vous, quand un locataire vous paye un pourcentage de ses ventes, est-ce que vous ne pouvez pas inclure les ventes en ligne du locataire?
Non.
Non, c'est ça qui est un peu...
C'est dur à contrôler parce qu'on ne sait pas vraiment d'où ça part. Puis même des fois, est-ce que des retours... Toi, je fais une commande, j'ai un locataire XYZ qui est son centre de distribution à Montréal, que j'ai un centre d'achat qui est en Gaspésie, je commande de chez nous, je reçois par la poste, ça ne fait pas, je vais le retourner au magasin qui est dans la région en Gaspésie. Est-ce que ça tombe en vente négative dans mes ventes à pourcentage?
Probablement.
Non, mais c'est un enjeu. Dans les baux, c'est tous des sujets de discussion qu'on a depuis quelques années, mais qu'il faut faire attention. Puis il faut, au bout de la ligne, il faut quand même avoir une confiance entre le bailleur et les locataires, parce que sinon, ça serait facile de jouer avec les chiffres.
Oui, on peut vendre plus avec moins d'espace parce que le magasin est devenu plus comme une vitrine. Puis tu arrives à la... On n'a pas la taille, on va vous l'envoyer chez vous. La bonne nouvelle, c'est que les commerçants locaux se sont mis au commerce électronique. Avant, c'était l'apanage des pure players comme Amazon, tout ça. Mais là, avec des joueurs comme Simons qui ont une plateforme, c'est facile à utiliser. On peut retourner la marchandise n'importe où. C'est plus on magasine en ligne ou en personne. C'est on magasine en ligne et en personne.
Ouais, c'est un mix des deux.
Il n'y a plus l'opposition entre les deux. Là. Ça fait partie de notre mode de vie, d'y aller en personne, de l'acheter en ligne. Des fois, du même détaillant.
Et vice-versa. Des fois, de magasiner en ligne pour aller compléter l'achat, l'achat physiquement. Fait que c'est... Mais tu sais, on dit qu'il y a un intérêt pour une augmentation de loyer. T'sais, nos locataires sont plus actifs parce qu'il ne s'est pas construit de nouveaux espaces, peut-être dans les, je dirais grosso modo, 5 ou 10 dernières années. Mais François, tu en as parlé, il y a un méga projet à Montréal, Royal Allemand. Quand on regarde ça de ton point de vue, Marie-France, c'est quoi que ces gens-là vont chercher? Dans l'expérience retail.
Tu veux dire les clients?
Ben le promoteur, dans le fond. Qu'est-ce qu'il veut?
C'est pour sa nouvelle offre. Ouais. C'est l'offre du futur dans du retail.
Oui. Bien, en fait, c'est une offre qui va être de qualité supérieure puisque c'est récent. Les locataires qu'ils ont sécurisés, je pense qu'il y a Louis Vuitton, Yves Saint-Laurent.
Des hauts de gamme.
Oui, mais aussi Dynamite et d'autres. Mmh. C'est un coin très densément peuplé qui va être accessible par le transport en commun. Là, le transport en commun, c'est important pour être capable d'attirer aussi de la main-d'œuvre. Qui puissent aller travailler dans les boutiques. J'ai hâte de voir, le projet va être dévoilé bientôt. Dans le commerce de détail, quand c'est tout nouveau, bien, c'est sûr qu'il y a un engouement au départ. Le 10-30, quand c'était tout nouveau, il y a eu un engouement de départ. Là, il y a eu le solaire de l'autre côté. Donc, il faut toujours... Il faut toujours rafraîchir. Au bout de 10 ans...
Ça va vite. Hein?
Oui, exactement.
Puis on le sent dans les grands projets commerciaux. Puis moi, je pense que ça va être une tendance, la grande densification. T'sais, on regarde les galeries de la capitale, on regarde ce projet de Royal Mount, on regarde des grands projets de Cadillac Fairview qui ont à Toronto. C'est beaucoup de densification, de taux résidentiels, d'hôtellerie qui vont monter, à même les centres d'achat. Moi, je m'attends à ce qu'on ait un boom quand même assez important de densification de ces propriétés-là. Fait que, oui, c'est un deal qui est retail, mais c'est un deal qui englobe plus que du retail.
Oui, l'air est à... Ce qui s'en vient, c'est beaucoup de la mixité des usages, des développements mixtes, des développements mixed-use qui sont assez accessibles pour permettre là, ce qu'on appelle le 15-minute cities. Donc, tu peux tout faire à l'intérieur d'un déplacement de 15 minutes. Puis ce déplacement de 15 minutes-là, il n'est pas nécessairement au centre-ville. Il peut être multipôle. Il peut avoir des pôles de 15 Minute Cities.
Enfin, en tout cas, moi, bref, j'entrevois des bonnes nouvelles pour le commerce de détail au cours des prochaines années. Marie-France, le temps file. On va parler un peu de multirésidentiel. On a une immigration là, qui est exceptionnelle actuellement au Canada. Là. Je pense qu'il disait qu'il y avait 1 million d'immigrants qui étaient rentrés là, dernièrement. Est-ce que le multirésidentiel va rester le produit de l'art le plus hot pour les investisseurs? Parce que justement, il y a du monde puis il faut qu'on construise.
Bien, oui, il y a une pénurie. Donc, quand il y a, comme je disais plus tôt, l'excès d'offres, c'est l'ennemi du marché immobilier. Quand il y a une pénurie, bien, ça permet de mais il y a quand même plusieurs enjeux là, au niveau du multirésidentiel. Si on achète une propriété plus âgée, bien, souvent, il faut réinvestir dedans, mettre des CAPEX. Si c'est quelque chose de neuf, bien, c'est sûr qu'en faisant un projet mix, on peut amortir certains coûts. Mais pendant 2023, alors qu'il y avait de l'incertitude sur le marché, c'est le produit que les investisseurs recherchaient le plus parce que la demande est là, la demande fondamentale pour le logement, elle est là. Elle est
mais on n'est pas prêt de voir une diminution de loyer. Ça va encore augmenter de manière importante pendant plusieurs années.
Bien, tant que le taux d'inoccupation est en bas de 2 % là, oui, c'est sûr. Parce que c'est de la pénurie. On parle de pénurie. Là. Il y a 30 ans, le taux était à 5-6 %. On pouvait décider de déménager. Là, les gens, ils voient dans... Il y a aussi, c'est psychologique aussi. On voit dans les médias, crise du logement. Quand arrive l'augmentation de loyer, on se dit, bien, je vais l'encaisser puis je vais rester au lieu... Il y a moins de roulement dans, mm-hmm. Dans les propriétés. Les gens restent là où ils sont parce que les options ailleurs ne seront pas moins chères.
C'est-tu partout de même sur la planète ou c'est exceptionnel en Amérique du Nord?
Bien là, tu m'en demandes beaucoup, la planète, je ne sais pas. Mais disons que, oui, au Canada, on a eu une croissance de la population la plus importante de tous les pays du G7. Et puis, c'est prévu aussi de continuer comme ça, ce qui entraîne une croissance du PIB importante. Donc, l'économie... mais il faut regarder aussi des fois le PIB par personne. Mm-hmm. Le PIB par personne n'est pas en croissance. Le PIB global du pays, mais pas le PIB par personne. Donc, il faut absolument qu'il y ait plus d'offres dans le multirésidentiel et que la pression ne soit pas... exclusivement sur les épaules de promoteurs immobiliers qui sont pas, c'est pas le rôle, c'est le rôle du gouvernement là, d'aider au niveau de ceux qui peuvent pas payer le loyer marchand.
Développement durable, on va en glisser un mot. C'est important pour toi, c'est important pour nous. Je pense que c'est un must pour les nouveaux projets, pour les redéveloppements. Qu'est-ce que tu en penses, mettons, du point de vue investisseur, institution financière, toi? Chavez Young, est-ce que vous conseillez vos clients d'aller vers cette orientation-là?
Ah oui, absolument. On a une équipe qui est dédiée à 100 % à tous ces enjeux-là pour conseiller nos clients, l'environnement, social, gouvernance. Environnement, ça fait longtemps que les promoteurs, que les investisseurs y accordent de l'importance. Il y a un retour sur investissement pour l'environnement parce qu'on sauve de l'énergie. Donc, le calcul se fait. Au niveau social, comment est-ce qu'un développement immobilier peut avoir un impact social positif? Je pense que les mentalités ont évolué énormément. Au niveau des investisseurs, surtout les fonds de pension, on distingue les brown buildings des green buildings, brown investment, green investment, parce que à long terme, les immeubles qui ont été développés selon les bons principes environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance, à long terme, maintiennent mieux leur valeur.
Maintiennent les valeurs et ils vont avoir une meilleure valeur au marché.
Oui, avoir une meilleure valeur au marché, plus de demandes. Il y a des locataires qui demandent ça. Et puis, il y a aussi énormément de réglementations qui s'en viennent, qui vont faire que ça va devenir un incontournable. Donc, autant le faire puis le faire bien maintenant.
Est-ce que c'est le feedback que tu reçois justement des investisseurs institutionnels que tu rencontres? Est-ce qu'ils embarquent là-dedans? Est-ce que c'est quelque chose qui les intéresse puis ils ont vraiment déjà commencé à travailler sur l'investissement vert?
Oui, absolument. Mais je me rappelle, vous avez construit le premier immeuble de bureau certifié LEED au Québec en 2008, qui est sur le Bourgneuf. Mm-hmm. Et à l'époque, en 2008, on entendait encore des gens dire « Ah, LEED, c'est juste une étiquette, c'est des frais de... » C'est des frais de consultant, mais c'est juste une étiquette, c'est une mode, ça va passer, c'est comme ISO. Mais aujourd'hui, 70 % des immeubles de classe A au centre-ville de Montréal sont certifiés LEED. Donc, 70 % ça veut dire si tu es dans le 30 % qui n'est pas certifié LEED, c'est un peu... t'es pas là.
T'es comme celui en Teams quand toute l'équipe est au bureau. <C'est> hein? On va passer au segment de la prolongation. Marie-France, tu es très impliquée dans Crew. Crew qui a été fondé en 1989. C'est 14 000 membres en Amérique du Nord, 14 000 membres féminins. Est-ce que tu pourrais nous expliquer c'est quoi Crew, pourquoi ça te tient à cœur, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider dans Crew pour que les femmes prennent de plus en plus leur place dans l'immobilier commercial?
Ah ben merci de me donner du temps pour ça. Crew, c'est Commercial Real Estate Women Network. Donc, c'est un network, comme tu as dit, international avec plusieurs membres. On a un chapitre au Québec qui compte des membres à Québec et à Montréal. La mission, c'est de transformer l'industrie immobilière par l'avancement des femmes dans cette industrie-là. On est encore sous-représentée. Pour démystifier, il y a 4 % des membres de Crew qui sont des hommes. Alors, je vous invite à adhérer et à prendre votre membership. On est très inclusif.
On est membre. Mimo Star est membre.
Oui, c'est ça. On est très inclusif. Et on offre tout ce qui fait en sorte qu'ils peuvent aider justement les femmes dans l'industrie à prendre un peu plus leur place. On a des programmes de réseautage, de mentorat. On a donné des formations. Ça, c'était mon projet. J'étais présidente de Crew pour 2023. Là, je suis présidente sortante 2024, mais mon projet bébé là, pour 2023, c'était la création d'un répertoire d'expertise féminine en immobilier commercial pour permettre aux organisateurs d'événements comme Informa, IDU, tout ça, d'avoir une liste d'expertes parce qu'ils cherchent d'avoir une meilleure représentation dans les panels, dans les conférences. Et puis, ce que Michel Rémy, que tu connais, me disait, c'est que des fois, ils vont demander à des femmes, ils font faire « Ah, oh, je ne suis pas sûre, je ne suis pas prête, hésite, tout ça. » Il y a, comme on dirait, un plus gros saut à faire, donc encourager. Donc, on a organisé des formations. Il y a d'autres formations de prise de parole qui vont être données par une formatrice professionnelle pour encourager justement peut-être celles qui hésitent à se lancer. Parce qu'une fois qu'on se lance, que les gens nous voient, ils pensent à nous pour les prochains événements. Ça devient, comme je vous disais peut-être au début, le premier sommet immobilier de Québec en 2008, j'étais la seule femme qui, en avant sur 35 conférenciers. Et aujourd'hui, on en a beaucoup plus. Mais c'est important de les voir pour que la personne assise dans la salle se dise, ça pourrait être moi qui soit là, qui donne mon avis. Oui, moi aussi, je suis une experte. Donc, puis je me rappelle même dans l'implication du comité organisateur. Tu étais là-dessus d'ailleurs, François, comité organisateur du sommet immobilier. On faisait la liste des gens qu'on connaissait, qui seraient bons pour tel panel et tout ça. Et c'est Jérôme Jolicoeur qui regardait la liste et qui a dit, il me semble qu'on n'a pas beaucoup de présence féminine dans notre liste. Puis c'était moi la présidente du comité. Parce que on va avec les gens qu'on connaît, qu'on a confiance, on sait qu'ils vont être bons, on sait, ça a marché dans le passé. Fait qu'il faut prendre des risques intentionnellement.
Mais on le voit depuis deux, trois ans déjà que les femmes s'impliquent. Oui. Puis tu sais, même dans notre équipe, nous, on en a plusieurs. La dynamique est différente, oui. L'énergie est différente. Ils vont aller couvrir un angle, des fois, qu'on n'a pas nécessairement perçu. Fait que c'est vraiment important de les inclure de plus en plus. Mais est-ce que tu sens que les jeunes filles, les jeunes femmes qui sont à l'école, à l'université, au cégep, est-ce que tu sens qu'il y a un mouvement de personnes qui veulent aller dans l'immobilier?
C'est moins naturel en immobilier que peut-être d'autres professions. On essaye avec nos membres d'aller visiter dans les campus universitaires, parler des carrières en immobilier. Par contre, ça prend 20 ans pour créer ou former un CEO ou quelqu'un qui va arriver à un poste de haute direction. Donc, je te dirais que je le vois, là, il y a plus de femmes dans les postes de haute direction qu'il y a 20 ans. Il y a aussi beaucoup de support, je pense, aussi, des hommes dans l'industrie qui veulent voir plus de diversité, qui veulent... L'important, si vous voulez savoir comment aider, là, c'est... moi, ce qui a été révélateur, c'est de me faire expliquer la différence entre un mentor puis un sponsor. Un mentor, c'est quelqu'un... Bon, on sait tous c'est quoi un mentor. Tu peux aller voir, parler des problèmes ou de ce qui va t'aider. Un sponsor, c'est quelqu'un qui est au sein de ton entreprise et puis qui est derrière toi pour te promouvoir, pour te mettre dans des postes, dans des postes clés ou te mettre à l'avant-scène. Moi, j'en ai eu un. C'était Sandy McNair qui était venu à Québec, tout ça. Lui, il m'a vraiment poussé puis mis de l'avant. Et ça a eu un impact... énorme aussi pour moi d'avoir quelqu'un comme ça qui intentionnellement voulait me propulser. Donc, c'est pas la même chose qu'un mentor. Et des fois, de faire attention aux biais inconscients. Dans le document que je vous ai partagé, là, des fois, il y a le biais inconscient, des fois, les femmes par rapport aux autres femmes, les hommes par rapport aux femmes. Mais ça change beaucoup avec la nouvelle génération. Ouais. Puis c'est un réseau de plus où est-ce que... c'est un réseau très inclusif aussi, où est-ce que c'est facile quand tu es plus jeune de commencer ton réseautage, là.
Non, il y a tellement de belles places pour les jeunes femmes qui vont venir en immobilier le futur. Oui. Là, on voit qu'il y a des trous partout. Là, oui. Bon, mais nous, dans notre équipe de gestion, oui. On a beaucoup de femmes. Il y a nos avocats, beaucoup de femmes. Et on a beaucoup de femmes qui sont... On en a moins un petit peu qui sont en développement. Mais dans nos équipes de professionnels, on en a plusieurs. Fait qu'on le sent qu'ils prennent leur place. Nous, on les encourage. Et évidemment, là, c'est important. Je pense qu'on va faire des meilleurs projets. Puis on va s'en aller vers un monde meilleur, puis avec un monde mieux pensé quand tout le monde va être inclus dans la discussion autour de la table. Ouais, c'est sûr et certain.
Si nos auditeurs, auditrices, surtout, veulent en apprendre plus sur Crew, comment ils peuvent voir vos activités à venir?
Oui,
ils
peuvent aller sur le site crewm.com. Il y a les activités, il y a des activités à Montréal, il y a des activités à Québec. Puis il y a beaucoup d'activités qui sont ouvertes aux non-membres aussi. Donc, et les hommes sont bienvenus.
On va être là.
All right.
Marie-France, on va terminer le podcast avec deux dernières questions. Tu vas être la prochaine coprésidente du Sommet immobilier de Québec. Félicitations cet automne.
Merci.
C'est quoi les sujets, tu penses, rapidement, qu'on va discuter pendant ce sommet-là ici à Québec?
Bien, le Sommet immobilier de Québec, je suis impliquée depuis le tout début. Là. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Puis il y a toujours deux angles à aborder. Mais premièrement, il y a la moitié des participants qui viennent pas de Québec. Ils sont souvent de Montréal, un petit peu de Toronto, mais surtout de Montréal. Donc, c'est vraiment l'endroit où est-ce que ceux qui font des affaires dans les deux villes, c'est l'événement. Donc, il faut toujours parler, essayer de démystifier le marché de Québec, les idées préconçues sur le marché de Québec. Donc, y aller un peu au niveau. Puis aussi, avoir des ateliers où est-ce qu'on peut aller de façon plus pointue dans les différents secteurs. Donc, je pense que les sujets, ça va être justement l'obsolescence, les grands occupants de bureaux versus les plus petits occupants, la pénurie au niveau industriel, les enjeux sociaux, le pas dans ma cour, etc. Tout ça c'est les mêmes sujets que dans les autres villes canadiennes, mais d'y aller avec des exemples plus de la capitale.
Ça, c'est au mois d'octobre, ça, je ne me trompe pas.
Ouais,
donc,
ça va être au mois d'octobre.
On va savoir 2024. Où on s'en va en transport structurant aussi, donc ça va revenir encore à l'avant-plan.
On a présenté plusieurs moutures de transport structurant depuis plusieurs sommets immobiliers. Alors, j'espère que celui-là...
Ça va la bonne.
Ça va être la bonne et puis que tout le monde va savoir où aligner leur pion.
Mais bref, on invite nos auditeurs à s'inscrire. Là, c'est le plus gros show d'immobilier là, qui arrive une fois aux deux ans dans la ville de Québec. Là, des panélistes, des spécialistes, des speakers qui viennent un peu partout là, du pays. Fait que je vous invite vraiment à venir voir ça. Donc, Marie-France, pour finir le show, est-ce que tu aurais un conseil, une recommandation pour nos auditeurs à donner pour finir ça?
Bien, ça fait 30 ans que je suis dans le domaine et les cycles étaient assez longs et prévisibles. Mais je trouve que dernièrement, les choses changent très vite. Donc, ne pas se fier à quelque chose qui était vrai il y a 6 mois, puis penser que c'est encore vrai maintenant, de s'entourer, de consulter différents experts, parce que les choses bougent très vite. On n'a même pas parlé d'intelligence artificielle et de l'impact sur l'immobilier.
Il faut te réinviter.
Parce que les enjeux évoluent très rapidement, et c'est ça, je pense, qui est le défi par rapport à il y a 30, 10, 20 ou même 10 ans.
Marie-France, Kevin, sérieusement, c'était un super show. Je n'ai pas vu le temps passer. Là. Je vous remercie. Marie-France, t'es rempli de bons conseils, t'es rempli d'expériences exceptionnelles. Fait que je te souhaite un bon printemps, été, automne, une bonne année 2024 dans tout ce que tu fais en immobilier.
Merci François, merci Kevin. Même chose pour vous.
Donc, le podcast des Boys d'immobilier t'est rendu possible grâce à ImmoStar. ImmoStar, c'est un leader en immobilier résidentiel, industriel et commercial à Québec. J'invite tout le monde à visiter notre site web immostar.ca si vous souhaitez en découvrir plus sur nous et nos projets ou postuler s'il y a des postes disponibles. Merci. Salut.